Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes jeudi 24 Esfand, 1402 du calendrier iranien, 14 mars 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Les mesures humanitaires à Gaza, outils de déplacement massif dans les mains d'Israël. Le régime israélien a déjà perdu la guerre et ça ne lui sert à rien d'envahir Rafah, a déclaré Seyed Hassan Nasrallah. La résistance irakienne attaque la base aérienne israélienne Palm Machine avec des drones. Et un navire chargé d'aide humanitaire se dirige progressivement vers Gaza. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a souligné que l'armée israélienne, qui mène une guerre génocidaire contre la bande de Gaza, est épuisée sur tous les fronts. Israël a perdu la guerre à Gaza, même s'il entre dans la ville méridionale de Rafah, et son armée est épuisée sur tous les fronts, a réaffirmé mercredi le secrétaire général du Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah. Israël a lancé la guerre contre Gaza le 7 octobre après l'opération Tempête d'Al-Aqsa, une opération surprise menée par des groupes de résistance palestiniens contre le régime israélien en représailles à l'intensification des crimes commis par le régime de Tel Aviv contre les Palestiniens depuis des décennies. Une nouvelle base de l'armée israélienne a été ciblé jeudi 14 mars par une attaque de drones de la résistance islamique en Irak. La résistance islamique en Irak a annoncé avoir frappé la base aérienne stratégique Palm Machine dans le nord d'Ashdod. Dans le cadre de la deuxième phase de l'opération de soutien à la Palestine et au peuple de Gaza, la résistance islamique en Irak a annoncé que lors d'une attaque de drone réussie, elle avait frappé avec précision la base aérienne Palm Machine au cœur des territoires occupés. La deuxième phase des opérations de la résistance comprend l'imposition d'un blocus sur la navigation maritime israélienne en Méditerranée et la mise hors service des ports israéliens. La résistance irakienne affirme qu'elle poursuivra et intensifiera ses opérations pendant le mois béni de Ramadan. Mardi également, la résistance irakienne avait annoncé avoir attaqué l'aéroport Ben-Gurion à Tel Aviv à l'aide de drones. La résistance irakienne a diffusé des images de l'opération dans laquelle l'aéronef sans passagers a largué un projectile en atteignant la cible destinée. Un navire chargé d'aide alimentaire se dirige progressivement vers Gaza au milieu d'appels croissants pour faire face aux conditions humanitaires désastreuses dans la bande palestinienne assiégée. Le navire, envoyé par une ONG espagnole, remorque une barge transportant 200 tonnes d'aide alimentaire. Il a appareillé mardi d'un port de Chypre. Par ailleurs, le ministre chypriote des Affaires étrangères a déclaré qu'un deuxième navire d'aide humanitaire d'une plus grande capacité était en préparation dans le port de Larnaca. Les bombardements et offensives terrestres d'Israël ont réduit en ruine une grande partie des infrastructures de Gaza. L'assaut se poursuit sans relâche. Mercredi, la principale agence humanitaire de l'Organisation des Nations Unies à Gaza a déclaré qu'une frappe israélienne avait touché l'un de ses entrepôts dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, tuant au moins un membre de son personnel. Les agences d'aide internationale affirment que l'arrivée actuelle de l'aide humanitaire ne peut pas répondre à la situation désastreuse à Gaza. Lors d'une rencontre avec le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a souligné le développement des liens politiques et économiques avec la France. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a souligné la nécessité de saisir les opportunités et les énergies disponibles en Iran et en France pour développer les relations politiques et économiques entre les deux pays. Le nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran à Paris, M. Mohammad Ahmadinejad, a rencontré mercredi le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Le nouvel ambassadeur a donné lors de la rencontre un aperçu des derniers développements dans les relations bilatérales entre la République islamique d'Iran et la France et a expliqué à cette occasion ses futurs programmes pour développer et renforcer les liens bilatéraux entre Téhéran et Paris. Les représentants de la République islamique d'Iran et de la Russie ont discuté de la lutte contre le trafic de drogue en marge de 67e session de la Commission antinarcotique à Vienne. Eskandar Momeni, secrétaire général iranien du contrôle des drogues, qui s'est rendu en Autriche à la tête d'une délégation, a rencontré et s'est entretenu avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinin. Lors de cette réunion, les deux parties ont échangé des points de vue sur une coopération efficace dans la lutte contre la drogue au niveau international, mais également au niveau bilatéral entre la République islamique d'Iran et la Russie. Le représentant iranien a également suggéré que la question de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un document global sur la coopération entre les deux pays dans divers domaines de la lutte contre les stupéfiants soit inscrite à l'ordre du jour de Moscou et de Téhéran. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. un nouveau rapport révèle que les ordres d'évacuation du régime israélien dans la bande de Gaza, au milieu de la guerre en cours dans le territoire assiégé, ont conduit à un déplacement massif de Palestiniens ainsi qu'à des actes de génocide contre eux. Selon un rapport de Forensic Architecture, un groupe de recherche de l'Université de Londres publié mercredi 13 mars, l'armée israélienne a transformé en armes les mesures humanitaires telles que les ordres d'évacuation et les zones de sécurité comme un outil pour pousser les civils vers les zones d'opération militaire israélienne actives. Le rapport poursuit en affirmant qu'au lieu de protéger des vies, le recours à de telles mesures a facilité le déplacement forcé et massif de Palestiniens et contribué au meurtre de civils dans tout Gaza. Plutôt que des actes humanitaires utilisés comme mesures préventives pour la sauvegarde de la vie civile, Israël a exercé une forme de violence humanitaire de concert avec ses autres actions génocidaires plus larges, note le rapport. Le rapport de 80 pages souligne en outre que de telles mesures contiennent souvent des incohérences et conduisent à la confusion, ce qui a conduit Israël à bombarder des zones de sécurité désignées à Gaza. Le résultat de ces mesures a été la mort de plus de 31 000 Palestiniens, dont plus de 60% de femmes et d'enfants, des milliers d'autres disparus et des dizaines de milliers d'autres civils blessés. Le rapport a également fait noter que malgré l'arrêt provisoire rendu par la Cour internationale de justice, CIJ, contre le régime israélien à propos du génocide à Gaza en janvier, le régime occupant a persisté à expulser de force les Palestiniens de leur foyer et à leur refuser les aides essentielles. Il est ajouté aussi que le porte-parole de l'armée du régime sioniste, le contre-amiral Daniel Hagari, a annoncé mercredi devant un parterre de journalistes qu'Israël cherche à déplacer de force une partie importante des 1 400 000 Palestiniens actuellement réfugiés à Rafah vers les soi-disant îles humanitaires au centre du territoire avant une incursion dans la ville la plus méridionale de Gaza. Il a ajouté que le transfert des Palestiniens de Rafah vers des zones désignées était un élément clé des préparatifs militaires en vue de l'invasion de Rafah.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, opposant leur veto à trois résolutions mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza, fournissant des armes à grande échelle et de l'argent au régime israélien, nous parlons bien sûr des États-Unis, voilà qui se mettent maintenant a envoyé de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Spectacle pur et simple, bien sûr. Alors, les peuples du monde, surtout chez la jeunesse, sont extrêmement conscients de la réalité. Alors, compte tenu du blocus imposé par Israël d'empêcher l'arrivée de l'aide humanitaire dans ce pays, dans la bande de Gaza, l'Iran a trouvé le moyen d'acheminer son aide humanitaire par le biais de l'Égypte sans faire de bruit. Alors nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
L'Iran estime que les États-Unis sont l'un des principaux acteurs de la guerre à Gaza et que leur distribution d'aide à ce territoire n'est qu'un spectacle ridicule. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis sont le principal responsable du déclenchement de la poursuite de la guerre israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Le gouvernement américain a soutenu le régime sioniste en parole et en acte, a déclaré lundi 11 mars Nasser Kanani aux journalistes lors de son point de presse hebdomadaire à Téhéran. Depuis le début de la guerre contre la Palestine en octobre, les États-Unis fournissent des livraisons d'armes à grande échelle au régime israélien, a-t-il ajouté. Il a noté que les États-Unis ont mis le peuple palestinien sous pression, dénonçant la douloureuse inaction de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies, au cours des 5 derniers mois face aux attaques brutales du régime israélien contre Gaza.
Eh bien, voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat d'aujourd'hui Aïssar Midani, intellectuel, expert des questions internationales. C'est une analyste franco-syrienne qui est avec nous depuis la France. Bonjour Aïssar Midani.
Bonjour et merci pour votre invitation. Bonjour à votre invité et à vous-même et à l'ensemble de l'équipe Presse TV et tous les téléspectateurs.
Vous êtes très bien placé, Aïssar Midani, de débattre donc cette question. Vous avez toujours lutté les crimes commis par le régime israélien dans la bande de Gaza contre les Palestiniens et surtout en Syrie. Un grand bonjour à Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Stockholm. Bonjour Ahmad Rami.
Bonjour, bonjour et merci pour votre invitation.
Un grand plaisir de vous recevoir également vous, Ahmad Rami. Vous avez mené une longue lutte contre le régime israélien depuis Stockholm. Nous sommes tous au courant. Alors, ma première question va s'adresser à Aïssar Midani. Alors, Aïssar Midani, bien sûr, ça fait des décennies que les États-Unis mènent une politique de deux poids, deux mesures à l'encontre des Palestiniens. Et là, ils fournissent des armes et de l'argent au régime israélien pour mener justement cette guerre génocidaire dans cette région et envoient avec l'audace l'aide humanitaire aux Palestiniens. Que pensez-vous, Geoffrey?
Écoutez, cette aide humanitaire que je mettrai entre beaucoup de guillemets, qui fait couler beaucoup d'encre maintenant, et les Américains proposent un quai au large de Gaza, un pont maritime, une aide alimentaire qui est larguée par parachute, etc. En fait, alors qu'en même temps, elle continue à tuer des Palestiniens avec un pont aérien qui est d'armes et de munitions qui est permanent depuis le premier jour et qui n'a pas cessé d'ailleurs. Il faut quand même savoir que les États-Unis peuvent arrêter cette guerre en exigeant de Netanyahou de le faire en quelques minutes, mais en fait, rappelons-nous quand même qu'il y a eu 5 vétos contre le cessez-le-feu, que les États-Unis, au dernier veto, étaient complètement isolés, alors qu'il y a tous les pays du monde qui étaient contre, même la Grande-Bretagne s'était abstenue. Donc, en fait, c'est une volonté américaine. Les États-Unis sont non seulement, en fait, c'est eux qui mènent cette guerre contre les Palestiniens, ce sont eux qui ont été, avec les Anglais et les Français, à l'origine de la création de cet État fantoche d'Israël, qu'ils continuent à l'alimenter, ils continuent à le soutenir par des milliards de dollars tous les jours, et par aussi des munitions, des armes, etc. Et il continue à le protéger aussi, même vis-à-vis des instances internationales de justice, etc. Parce que c'est le seul État du monde, en fait, si on peut appeler ça un État, cet État fantoche, qui est au-dessus des lois, ne respecte rien, y compris les lois de la guerre. Donc, ils ont attaqué les hôpitaux, ils s'attaquent aux enfants, ils ont attaqué les structures de l'ONU, ils ont attaqué les écoles et les centres d'hébergement. Donc, ça, c'est le panorama général. Maintenant, il s'agit de... S'agit-il réellement d'aide alimentaire ? Pour moi, jusqu'à présent, il s'agit plutôt de toxiques, de choses toxiques, puisqu'on a déjà, en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées lors du largage. Et pour moi, c'est comme un hameçon qu'on donne à des poissons alors qu'on peut les pêcher. C'est un appât, en fait, et les Israéliens tirent à comme ça, à bout portant, sur tout le monde qui vient prendre les aides. D'ailleurs, ça a été aussi à plusieurs reprises, même les aides qui arrivaient par le passage de Rafah, les Israéliens aussi venaient tuer les Palestiniens qui viennent prendre les aides. Le souci, je dirais, dans ces propositions israélo-américaines, parce qu'elles sont israéliennes réellement et américaines, c'est d'abord neutraliser le rôle à la fois des Palestiniens qui est distribué dans la distribution des aides, neutraliser le rôle de l'UNRWA, neutraliser le rôle du Croissant Rouge palestinien et de la Croix-Rouge, neutraliser et éliminer le rôle de l'Égypte et de la Jordanie, qui ont aussi leur mot à dire sur le passage de Rafah. Dans votre rapport, vous avez dit que ça a été, il y a eu des aides qui sont venues, qui sont arrivées et qui sont parvenues aux Palestiniens avec l'aide de l'Égypte, oui. Mais sans faire de battage médiatique, hein. Et donc ça c'est possible, et que donc tout ça c'est en fait du cinéma, c'est absolument. Du Hollywood qui veulent nous occuper avec leur cinéma hollywoodien, prétendant que ils veulent aider le peuple palestinien, alors qu'en réalité ils veulent complètement éliminer. Ils sont partie prenante et même ils dirigent ce génocide contre le peuple palestinien.
Absolument,
Ils le dirigent, ils le protègent. Je voudrais quand même donner une information. Les soi-disant aides alimentaires qui ont été larguées, il y a une partie qui est arrivée à Sourte, dans le sud du Liban, et en fait, on découvre qu'il y a juste de l'alimentation pour chats et chiens et des chaussures en plastique, hein, pour voilà. Oui. Donc ça c'est le mépris, vraiment, c'est pas seulement le mépris, c'est l'ignominie totale, en fait. Hein.
Absolument.
Vraiment.
Absolument.
Et donc, le mépris des êtres humains, d'ailleurs, ça continue un peu dans le sens de ce que disaient certains dirigeants israéliens. Nous avons affaire à des animaux, n'est-ce pas ? Et ils utilisent exactement les mêmes manières pour traquer les animaux et pour les chasser, etc. C'est absolument dégoûtant et horrible. Et je voudrais quand même que ça ne reste pas impuni, que des sanctions du monde entier tombent sur cet État d'Israël et son complice américain dont il est le cerveau, en fait, et la main israélienne est agissante, la main.
Absolument. Ahmad Rami, vous êtes directeur de Radio Islam en Suède. Donc, vous êtes très bien placé pour répondre à nos questions. Alors, nous avons entendu les propos d'Aïssa Armidani qui étaient tout à fait justes. Alors, mais les peuples du monde sont extrêmement conscients des réalités. Que pensez-vous de ce spectacle pur et simple réalisé par les États-Unis à l'encontre des Palestiniens ?
Oui, à mon avis, tout ce qui se passe maintenant en Palestine et la guerre contre le peuple palestinien, contre la Palestine, est un scandale énorme, affreux, abominable, qui en réalité constitue une honte énorme à tous les peuples et à toute l'humanité. Parce que c'est ce qui se passe maintenant devant nos yeux, alors que personne ne réagit. La Palestine est totalement isolée. Alors que, par exemple, quand il s'agit de l'Ukraine, tout le monde est mobilisé contre l'occupation, contre l'invasion. Alors que, quand il s'agit de la Palestine, tout le monde maintenant s'est tu. Et il y a, bien sûr, ce qu'il y a, ce que rien ne se fait, on ne peut rien faire maintenant. Et surtout, le monde arabe ou musulman est totalement endormi, en sommeil. Et il n'y a pas de réaction. Et la même chose, bien sûr, en Occident et surtout aux États-Unis, mais la même chose en Russie, en Chine. Donc, c'est un scandale. Mais quand il s'agit des États-Unis, les États-Unis eux-mêmes sont, je l'ai toujours dit, sont occupés. D'ailleurs, c'est la même chose en Suède. La Suède est occupée, politiquement occupée. C'est la Palestine est occupée militairement. Eh bien, la Suède, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tout l'Occident sont occupés politiquement par le lobby sioniste. Il faut savoir que bien sûr les institutions internationales comme les Nations Unies sont aussi fondées sur la loi de la jungle, parce que même le droit du veto est donné au plus fort, c'est-à-dire c'est la loi de la force. Et bien sûr, tous ces États qui ont le droit de veto sont dominés, occupés politiquement par Israël.
Oui, Ahmad Rami, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais beaucoup connaître l'avis d'Aïssa Armidani concernant vos propos. Politiquement occupés, tous les pays européens, les États-Unis, par la force du lobby sioniste. Est-ce que vous êtes d'accord?
Alors, moi, je crois quand même qu'il ne faut pas nier la réaction de tous les peuples qui soutiennent la Palestine et que les drapeaux palestiniens ont couvert les rues et les villes du monde entier, y compris les États-Unis, y compris jusqu'à la Maison-Blanche et jusqu'à Washington. Mais effectivement, et on ne peut pas appeler les États occidentaux qui sont dominés ou les États qui sont dominés par les États-Unis comme étant le monde entier. Ça, c'est un affront qu'on fait aux autres pays qui sont en train de soutenir la Palestine. Tous les États qui ont mené aussi cette procédure en justice dans la Cour internationale de justice, tous les États qui commencent à prendre des positions pour la Palestine, à plusieurs reprises aux États-Unis. Il est certain que les Nations Unies sont à réformer et ça va venir. De toute façon, il est clair qu'il y a un changement dans le monde, que les peuples se rebiffent et qu'ils imposent à leurs dirigeants aussi des choses importantes. En fait, il y a la souveraineté aujourd'hui et le maître mot du nouveau monde qui est en formation, qui se fait. Certes, il y a des passages difficiles parce que le grand fauve américain, il mord de tous les côtés et il tient à son pouvoir, à son monopole. Mais en fait, son monopole est largement cassé et largement fracassé, je dirais, dans beaucoup de pays. Je rappelle les BRICS aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent et dont il faut tenir compte. Sans généraliser que tout le monde est contre les Palestiniens, c'est complètement faux. Les peuples sont tous avec les Palestiniens, les peuples du monde entier, les peuples du monde arabe aussi, ils sont tous avec le peuple palestinien. Le fait qu'il y ait des pays ou des pouvoirs qui sont encore dominés par les Américains, ben aussi, ils essayent de faire au maximum, oui, et au mieux. Quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Arabie saoudite aussi, ils essayent de faire au mieux sans qu'ils s'écroulent en même temps, en fait. C'est aussi une bataille très... il faut être très judicieux dans l'action, quoi. C'est ça. Et oui. Puis, on ne voudrait pas tout de suite que ça dégénère en guerre mondiale, hein, parce que les deux forces sont nucléaires, en fait, hein, et les deux sont fous, aussi bien les Américains que les Israéliens. Et avec des fous au pouvoir comme ça, c'est important d'être prudent, je pense.
Absolument. Ahmad Rami, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, je suis d'accord que c'est les peuples, maintenant, bien sûr. Ils ont commencé. J'ai voulu d'ailleurs parler de ça. C'est que face à cette occupation politique que Israël exerce sur tous les pays, il y a une résistance, même en Suède, populaire, et qui est en train de se réveiller et de se. Même aux États-Unis, il y a dans tous les pays, une résistance contre la domination sioniste. Ça, c'est clair et net. Surtout, même aux États-Unis, hein, ouais. En Angleterre, en France, partout dans le monde entier, il y a une résistance politique. Il y a des organisations antisionistes contre l'occupation, contre Israël, dans tous les pays.
Ahmad Rami, excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes tout de même d'accord que le régime sioniste a perdu beaucoup de force, que ce soit dans le domaine du lobby ou ailleurs, n'est-ce pas, Ahmad Rami?
Oui. Maintenant, ce qui se passe en Palestine est en train d'être le massacre. Il n'y a, à part la République islamique d'Iran, le Hezbollah, le Yémen, la Syrie,
l'Irak.
Et l'Irak aussi, oui. Et il n'y a pas d'autre, en réalité, résistance. La seule résistance qui est au niveau de ce qu'il faut faire, c'est la République islamique d'Iran qui en donne l'exemple. Le reste, c'est passif. Il y a une passivité extraordinaire. Mais ça a à voir aussi, ce n'est pas Israël qui est fort. C'est les non-sionistes, c'est les non-juifs qui sont faibles, qui sont organisés. La seule force d'Israël, c'est la faiblesse des êtres humains, du reste de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils s'endorment aujourd'hui et qu'ils ne réagissent pas. Alors que les sionistes sont organisés, très organisés, comme tous les sectes d'ailleurs. Ce sont des chiffres. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4, alors que leurs victimes sont passifs, non organisés, et ce sont des zéros. Donc en réalité, les sionistes constituent une majorité puisqu'ils sont actifs, alors que à part les Palestiniens, bien sûr, ils sont directement obligés de résister, ils n'ont aucun autre moyen, aucun autre moyen de réagir, sauf la résistance. Oui. Mais les autres peuples, par exemple, vous prenez, moi je suis d'origine marocaine, ben, au Maroc, il est occupé, plus occupé que la Palestine. Hein. Les Palestiniens sont conscients de l'occupation, donc ils réagissent. Alors que le peuple marocain est aussi, puisque les médias sont occupés, le régime politique est occupé, c'est un régime israélien. La même chose en Égypte. D'ailleurs, la Libye n'existe plus. Hein, l'État libyen n'existe plus. Donc, les pays arabes sont devenus des ruines. L'Égypte s'est totalement effondrée. Le Soudan s'est effondré. Tous les pays arabes sont effondrés et occupés politiquement par Israël, puisque les régimes sont des régimes prêtres qui collaborent avec Israël. Donc c'est la réalité, hein. Ce n'est pas une
d'accord
une
tout à fait
explication.
Oui. Oui. Oui, absolument.
Moi, je voudrais
Aïssa Armidani, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Permettez-moi d'abord de rendre hommage à Aaron Bushville qui s'est brûlé quand même à Washington et qui est un officier logistique de l'armée américaine qui a opéré en Israël et qui s'est brûlé vif devant l'ambassade israélienne aux États-Unis à Washington. Et je voudrais rendre hommage à lui et à tous ces Américains qui tous les jours aussi continuent ou toutes les semaines continuent à faire des manifestations et exiger un cessez-le-feu immédiat de leur gouvernement. De toute façon, il est clair que les gouvernements ne pourront que se plier à une volonté populaire lorsque celle-ci devient importante. Je ne suis pas d'accord pour dire que tous les États arabes sont des traîtres, etc. C'est une généralisation qui ne prend pas compte de détails qui sont aujourd'hui en train de se faire. Comme on avait dit, l'Égypte continue à essayer de composer et à faire au mieux pour les Palestiniens, que les pays, les peuples arabes aussi, ils manifestent partout. Je prends la Jordanie, il y a des manifestations vraiment énormes tous les jours pratiquement et qui soutiennent aussi les Palestiniens, les Irakiens aussi envoient des vives, mais il faut dire quand même que l'Irak, elle est aussi coincée. Mais c'est un mouvement, en fait. Il faut voir la dynamique des choses et ne pas se cantonner à un jugement comme ça, général. S'il n'y a pas d'action aujourd'hui, c'est que c'est zéro. Je voudrais dire quand même qu'il y a même au sein des pays européens, il y a aussi des pays qui réagissent différemment et qui vont aller aussi, qui se dégagent de plus en plus de l'emprise américaine et sioniste. Je voudrais saluer aussi le mouvement de tous les juifs anti-sionistes hein, qui se démarquent aussi d'Israël et qui soutiennent et qui crient haut et fort leur soutien aux Palestiniens. Ça, c'est aussi quelque chose de très important, de très nouveau. Il y a eu avant-hier à New York quand même une manifestation de 50 000 personnes de juifs anti-sionistes qui étaient là avec d'autres. Donc c'était une très grande manifestation. Donc il faut quand même voir tout ça et voir la dynamique du changement et que c'est un changement irréversible. Ça ne reviendra pas avant, on ne reviendra pas du tout à la situation avant le 7 octobre. Les Palestiniens sont gagnants. Israël a perdu complètement son image, son soutien dans tous les pays et toute l'image qu'ils essayaient de montrer au monde, qui est une image encore une fois hollywoodienne, qu'ils voulaient montrer au monde comme étant le pays le plus démocratique, l'armée la plus humaine, etc. Tout ça s'est tombé. Oui. Et c'est quelque chose d'important, d'énorme en fait. Il aurait fallu peut-être des années pour que ça tombe. Tous les masques sont tombés, aussi bien du visage israélien que du visage américain, et tous ceux qui soutiennent ce couple-là.
Tout à fait. Fort heureusement, Aïssa Armidani, les peuples du monde sont conscients des réalités. Merci beaucoup d'avoir participé. Absolument. À l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci à Ahmad Rami également d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 16 à 22 du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Notre dernier programme, nous avons lu ensemble des versets qui nous ont appris que le Coran évoque le cycle de la vie et de la mort dans l'univers naturel en prenant l'exemple des végétaux. Le livre saint souligne ensuite que la vie après la mort et la résurrection pour les êtres humains est en quelque sorte comparable à ce cycle que Dieu le Très-Haut a créé dans la nature. Au jour de la résurrection, les poussières se réunissent et les hommes reprennent vie grâce à la volonté et à la puissance du Seigneur, tout comme les graines des arbres. En effet, ce n'est pour Dieu ni impossible ni improbable. Le Noble Coran donne l'exemple des peuples d'antan qui ont été tous anéantis, car ils n'avaient pas foi en Dieu et parce qu'ils niaient les messagers que Dieu le Très-Haut avait élus pour les guider vers la lumière de la foi et de la croyance. À l'époque de l'avènement du noble messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, les païens de la Mecque rejetaient son appel et insistaient dans leur ignorance et prétendaient suivre leur tradition ancestrale. Dieu le Très-Haut dit à son noble messager que ce rejet avait son origine dans l'obsession, le fanatisme et l'ignorance, en rappelant que plusieurs peuples d'antan avaient été châtiés pour leur mécréance. Parmi les mécréants et les païens, il y avait ceux qui ne rejetaient pas l'idée de la création de l'univers. Mais ils s'abstenaient de croire au concept de la résurrection qu'ils considéraient comme impossible et improbable. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 16 de la Sainte Sourate Qaf. Puis nous vous en donnerons la traduction.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Le noble Coran évoque la création de l'homme par le Seigneur. La sourate 50 est particulièrement axée sur la question de la résurrection. Dieu le Très-Haut a créé l'être humain et c'est lui qui connaît parfaitement son essence, ses capacités et ses limites. Dieu connaît parfaitement tout ce que l'homme fait, tout ce qu'il pense et tout ce qu'il ressent. Par sa clémence, le Seigneur ne châtiera pas ses créatures pour leurs tentations et leurs mauvaises pensées, tant qu'il n'est pas passé à l'acte et qu'il n'a pas commis de péché ou de délit. En effet, Dieu est plus proche de ses créatures que leurs veines jugulaires. Ce verset du noble Coran nous apprend
que la puissance et la science de Dieu le Très-Haut sont infinies. Il connaît parfaitement les moindres recoins de son existence. Il connaît donc les bonnes intentions et les mauvaises tentations les plus secrètes de chaque individu. Nous devons veiller sur notre esprit et notre âme et empêcher de commettre ce qui pourrait éveiller en nous des penchants pour les vices. Voici maintenant les versets 17 et 18 de la Sainte Sourate Qaf.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
Quand les deux anges placés à droite et à gauche recueillent les actes, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Deux anges, l'un à gauche et l'autre à droite, sont témoins de tout ce que chaque individu humain accomplit à tout moment de son existence. Ils enregistrent aussi les bons et les mauvais actes de chaque individu. Certains gens ne considèrent pas les paroles comme des actes qui pourraient être enregistrés par ces anges comme leurs actes. Or, les paroles ont des effets indéniables dans tous les aspects individuels ou sociaux de l'existence humaine. C'est la raison pour laquelle le Saint-Coran met particulièrement accent sur l'importance des paroles. Ces versets du noble Coran nous apprennent que Dieu, le Très-Haut, connaît tous les aspects de l'existence de l'être humain et qu'il a chargé des anges à être témoins des actes et des dires des individus et les enregistrer. L'être humain est responsable devant Dieu pour ses actes et pour ses paroles. Écoutons enfin les versets 19 à 22 de la sourate 50 du noble Coran.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Quand l'heure de la mort arrive, l'homme est pris d'angoisse. Mais c'est pour lui le moment de la vérité. L'homme découvre que la mort est un passage vers l'au-delà où chaque individu sera jugé pour ce qu'il a fait pendant son existence matérielle sur la terre. La mort est donc un passage de ce monde vers la vie éternelle dans l'autre monde. Ces versets du noble Coran nous apprennent que naturellement l'homme craint la mort et qu'il est pris d'angoisse au moment où la mort arrive. L'agonie de la mort est pourtant un moment de la vérité parce que l'homme découvre que sa vie dans ce bas monde est terminée et qu'il passe dans l'autre monde où il vivra éternellement après être jugé pour tout ce qu'il a fait pendant sa vie sur la terre. Chers auditeurs, ici s'achève la voix de la lumière d'aujourd'hui.
La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 50 du Noble Coran, la Sainte Sourate Qaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu.
Thank you.